lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur?
Je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, mangerai on ne sait quoi ces cas-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de lèpre toute neuve. Mais pour le chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole. Chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissonnaient devant moi comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? Oh mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe. Plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont? Dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mange-terre. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grande ma main. Je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire 89,4 MHz, eh bien, c'est l'heure de l'émission Les Mangeterres en direct, y compris au mois d'août, qui va faire un peu le point, comme d'habitude, sur l'actualité écologique, sociale, environnementale, et cette actualité qui est particulièrement riche hein, autour de, d'une revue de presse. Alors on ne pourra pas tout évoquer dans cette 1h30 que dure l'émission, mais je vais néanmoins commencer par une note d'ambiance avec des éléments bien qui ont marqué ce mois de juillet. Et m'appuyer pour ça tout d'abord sur la lecture d'un communiqué de presse de France Nature Environnement du 27 juillet, pointant le fait le silence de l'État face à la sécheresse catastrophique. En effet, cette sécheresse s'est installée depuis la fin du printemps sur l'ensemble du territoire et elle est inédite par son ampleur et ses conséquences pour les milieux naturels et nos usages de l'eau. Alors qu'une instruction de la ministre de l'Écologie parue le 3 juillet est très claire sur la réactivité attendue des préfets, on constate que la gestion de crise et les restrictions peinent à se mettre en œuvre sur le terrain. Pire, l'État et ses services font preuve d'un silence inacceptable face aux appels de la coordination rurale à ne pas respecter la réglementation. L'Observatoire national des étiages, ONDE, constatait dès la fin juin, avec 25% de ruptures d'écoulement et d'assec, hein, de rivières à sec, constatait donc une situation la plus critique enregistrée à cette période de l'année pour les cours d'eau depuis la création du réseau de surveillance piloté par l'Office français de la biodiversité. Mortalité piscicole, réchauffement des poches d'eau de surface, assèchement de l'ensemble des écosystèmes alimentés en temps normal par les ruisseaux et les rivières, c'est une catastrophe écologique qui se poursuit semaine après semaine. L'inquiétude grandit aussi dans de nombreux territoires pour des besoins essentiels comme l'eau potable ou la sécurité incendie, et les tensions risquent de s'accroître sur les usages économiques, agricoles, industriels, touristiques. La quasi-totalité des départements sont placés au moins en vigilance sécheresse et 59 sont en statut de crise, un nombre exceptionnel pour la saison. Alors, réactifs les préfets ? Pas tous. Le passage de la vigilance à la crise et donc la prise de restrictions de prélèvement subissent parfois un délai inexplicable. Si l'instruction ministérielle du 3 juillet dernier rappelle, citation, qu'il est attendu des préfets de département qu'ils prennent les arrêtés de restriction temporaire des usages de l'eau dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à partir du franchissement des seuils de gravité prévus par l'arrêté cadre départemental, eh bien cette consigne n'est manifestement pas respectée partout. Et nous dit France Nature Environnement, nous avons des remontées inquiétantes du terrain. À titre d'exemple, dans la région des Hauts-de-France, les 3 départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise sont seulement en vigilance à l'heure actuelle, donc avec aucune restriction. Cependant, les données de la DREAL, donc Direction de l'Environnement, diffusées au 16 juillet, montrent que les débits des cours d'eau sont passés sous les seuils d'alerte. On devrait donc déjà avoir des restrictions. Dans une vidéo postée le 14 juillet dernier, le président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne a non seulement appelé ses membres à ne pas respecter les arrêtés de restriction de l'usage de l'eau à destination de l'irrigation, mais a également menacé de représailles en cas de contrôle de la part de l'État. Cette vidéo a été visionnée près de 520 000 fois, sans condamnation de la part du préfet ni des ministres concernés. L'affaire est vite devenue nationale. Ce syndicat agricole a surenchéri par voie de presse le 22 juillet dernier, appelant à nouveau à ne pas respecter les restrictions qui seraient prises dans tous les départements. La réponse simpliste « cela n'est pas possible » de la ministre de l'Agriculture ne suffira pas à recadrer ces provocations qui menacent par ailleurs directement des agents de l'État. La lenteur des préfets à appliquer la réglementation prévue et l'absence de réaction formelle aux provocations de la coordination rurale sont la conséquence manifeste de plusieurs mois d'acceptation sans nuance d'un discours sur la primauté d'accès à l'eau qu'il faudrait donner aux irrigants. Gérer la crise pour sauver au mieux les récoltes, les milieux naturels et l'eau potable, cela doit se faire collectivement, indique Nicolas Richard, donc président de France Nature Environnement. France Nature Environnement demande une réaction ferme des ministres et une application immédiate et concrète de l'instruction ministérielle du 3 juillet dans l'ensemble des départements. La Fédération France Nature Environnement est attachée et impliquée de longue date via ses associations dans une gestion de l'eau qui garantisse un partage équitable de la ressource entre usages et la préservation des milieux naturels. En période de crise, l'irrigation, comme les autres usages, doit être cadrée dans la transparence et le respect des équilibres, y compris pour garantir un juste partage entre agriculteurs. Voilà pour ce communiqué. Comme on est dans l'introduction de l'émission, eh bien, je voulais faire un petit aperçu d'un mini psychodrame qui s'est joué ce mois-ci avec à l'appui de la revue en ligne Novétique sur la ministre de l'écologie, donc Monique Barbu, qui quelques heures après avoir annoncé sa démission, a décidé de rester ministre de la transition écologique, Emmanuel Macron lui ayant demandé de poursuivre sa mission et lui ayant assuré son soutien. Mais la lettre de 5 pages publiée par la ministre, donc sous-entendu à l'appui de sa démission, reste intacte. Elle y dénonce un recul environnemental de trop. On va y revenir, hein, c'est sur la loi d'urgence agricole, et accuse le gouvernement d'avoir renié ses engagements sur la loi d'urgence agricole. La séquence aura duré quelques heures. Mercredi 22 juillet au matin, tout semblait acté. Monique Barbu avait annoncé au Premier ministre qu'elle présenterait sa démission au président de la République après l'adoption de la loi d'urgence agricole, à l'appui de cette lettre de 5 pages, qui expliquait ne plus avoir les moyens de mener à bien sa mission face à des forces devenues si puissantes qu'elles empêchaient, selon elle, de défendre l'écologie au sein du gouvernement. Le scénario semblait écrit, mais vers midi, l'Élysée a changé le cours de cette séquence politique. Selon son cabinet cité par l'AFP, la ministre a finalement accepté de poursuivre la mission à la demande d'Emmanuel Macron, qui l'a assuré de son soutien. Elle a accepté de rester au gouvernement, citation, face à l'urgence d'agir contre les conséquences du changement climatique qui frappe durement notre pays et pour répondre aux enjeux de santé environnementale, a-t-on ajouté de même source, tout en assurant qu'elle avait confirmé son désaccord sur la version définitive du projet de loi d'urgence agricole avec la mesure controversée sur les pesticides. Le chef de l'État évite ainsi une démission qui aurait constitué un désaveu majeur pour l'exécutif. Pour autant, les critiques formulées par la ministre demeurent publiques. Le maintien de Monique Barbu crée une situation rare sous la Ve République. Dans sa lettre, la ministre ne se contente pas d'exprimer un désaccord. Elle exprime avoir voulu défendre un équilibre exigeant entre les attentes légitimes du monde agricole et les impératifs environnementaux, avant d'accuser le gouvernement d'avoir renié les engagements pris lors des discussions sur la loi d'urgence agricole. Contrairement aux engagements qui m'avaient été donnés, le gouvernement a empêché le débat autour de la suppression de cette mesure, écrit-elle au sujet de la réintroduction de l'acétamipride. Elle conclut que ce revirement constitue le recul environnemental de trop. Tout en acceptant de rester, Monique Barbu ne retire en rien de ces accusations qui mettent directement en cause la manière dont les arbitrages ont été rendus au sommet de l'État. Pour Arnaud Gossement, qui est avocat spécialiste du droit de l'environnement, cette séquence est sans précédent. C'est fou, je ne comprends pas, c'est une première. Je n'ai pas le souvenir d'une ministre de l'écologie qui critique de manière aussi forte son propre gouvernement, publie une telle lettre sur LinkedIn et reste au gouvernement, confie-t-il à Novétique. Selon lui, le maintien de la ministre risque de réduire encore sa capacité d'influence. Monique Barbu est clairement démonétisée, estime-t-il. Elle a même expliqué elle-même qu'elle n'avait plus les moyens d'exercer son mandat. Je ne vois pas comment elle peut désormais continuer à exercer ses fonctions. Pour l'avocat, le problème dépasse désormais la personne de la ministre. Le ministère sort affaibli de cette histoire. Le maintien de Monique Barbu contribue à son affaiblissement. Il regrette qu'aucune réforme plus profonde n'accompagne cette décision. Son départ n'était pas forcément une bonne nouvelle, mais laisser à la tête du ministère une personne qui explique elle-même qu'elle ne peut plus exercer pleinement son mandat, ça n'a pas de sens. Ça devient très triste. Voilà, donc c'est un commentaire qui est particulièrement light, hein, évidemment, de mon point de vue, hein, puisque, enfin, on le verra aussi, je crois, dans les différents extraits de presse, on a un mouvement général où le président de la République choisit des ministres de l'environnement de très peu de poids, hein, qui démissionnent, en tout cas, qui changent à tour de bras. Il y en a eu au moins 8, je crois, on le verra un peu plus tard. Et évidemment, ministre venant de la société civile, et ça a dit beaucoup de choses aussi sur cette histoire, sur bien le politique, hein, le politique politicien. Bien qui, pour garder une place au chaud, est prêt à se renier. Point de vue, en tout cas, un peu plus radical que celui exprimé par cet avocat spécialiste du droit de l'environnement. Je reprends la fin de ce communiqué, de cet article, pardon, paru sur Novetic. Le rebondissement de ce mercredi ne referme pas une crise plus profonde. Au-delà du cas de Monique Barbu, cette séquence raconte une difficulté devenue chronique, celle d'un ministère de la transition écologique qui, sous Emmanuel Macron, peine à peser face aux priorités de l'exécutif. Depuis 2017, c'est bien ça donc, 8 ministres se sont succédés à l'hôtel de Reclore. Nicolas Hulot avait quitté le gouvernement avec fracas en dénonçant l'influence des lobbies et l'impossibilité d'agir. François Durugy avait démissionné quelques mois plus tard, pour une histoire de homard, hein, si vous vous rappelez bien, en tout cas de frais de bouche et de réception somptueux, donc emporté par une affaire politique. Barbara Pompili puis Christophe Béchu avaient chacun à leur manière vu leur marge de manœuvre se réduire au fil des arbitrages, et Monique Barbu devient, elle, la première ministre à annoncer son départ dans une lettre au vitriol avant d'être retenue in extremis par le chef de l'État. En évitant une démission spectaculaire, l'Élysée a sans doute gagné du temps, mais il n'a pas dissipé le sentiment largement partagé parmi les acteurs de l'environnement que le ministère de la Transition écologique est devenu l'un des portefeuilles les plus difficiles à exercer du gouvernement. Voilà, donc c'est un peu un euphémisme, cette conclusion. Voilà. Autre article issu du site d'information en ligne de journalistes qui s'appuient sur le réseau universitaire. Donc ce site s'appelle The Conversation. The Conversation France, et donc article signé du 2 août, signé par Caroline Nourry, qui est directrice générale, et qui me paraît intéressant parce que, surtout les sujets d'actualité, canicule, méga-feu, inondation, l'extrême droite à l'offensive, l'article revient donc sur les positionnements démagogiques et dangereux même du Rassemblement National et de l'extrême droite. Alors que ces événements climatiques extrêmes se multiplient sous l'effet du dérèglement climatique, les acteurs d'extrême droite se sont récemment emparés du sujet pour avancer leur propre agenda anti-écologiste dans plusieurs pays occidentaux comme la France, l'Espagne ou les États-Unis. On pourrait s'attendre à ce que l'exposition des citoyens à des événements climatiques extrêmes renforce la conscience écologique, le soutien aux politiques climatiques, voire le vote en faveur de partis identifiés comme pro-climat. Pourtant, les travaux existants montrent que ce lien est loin d'être automatique. Et si une partie de l'explication tenait à la manière dont les acteurs politiques s'emparent de ces épisodes pour influencer l'opinion publique? Les partis d'extrême droite, en particulier, s'évertuent aujourd'hui à créer du conflit autour de ces événements climatiques extrêmes afin de promouvoir leur propre agenda et d'en tirer un bénéfice politique. À première vue, la multiplication des événements climatiques extrêmes fragilise le positionnement des acteurs d'extrême droite. Elle atteste de manière flagrante la gravité d'un phénomène qu'ils s'attachent habituellement à minimiser, voire à nier. Il est en effet désormais solidement documenté que la fréquence et l'intensité de ces épisodes augmentent sous l'effet du dérèglement climatique. Les dirigeants politiques d'extrême droite sont-ils désormais contraints de reconnaître cet état de fait ? L'examen de leur prise de position récente dans 3 pays, la France, l'Espagne et les États-Unis, donne à voir des résultats contrastés. En France, la vague de chaleur historique de juin 2026 a offert au RN l'opportunité d'un ajournement de façade. Le parti cherche désormais à gommer plusieurs années de position climato-sceptique en reconnaissant à demi-mot la brutalité des effets du dérèglement climatique à travers la canicule. Il faut savoir dire en politique qu'on n'a pas été clair et qu'on a même dit des bêtises, a admis le député Thomas Ménager, occultant les multiples saillies des cadres du RN contre l'alarmisme du GIEC ou leur tentative de détourner l'attention vers la lutte contre le réchauffement islamiste. Ça, c'est des citations d'expressions lamentables et scandaleuses de l'extrême droite. En Espagne, le parti d'extrême droite, Vox, a tenu un tout autre discours lors des inondations qui ont dévasté une partie de la province de Valence et provoqué la mort de plus de 200 personnes en octobre 2024. Ses dirigeants se sont empressés de se démarquer du consensus climatique en arguant que la goutte froide, le phénomène météorologique à l'origine des inondations, a toujours existé. Cette naturalisation de l'aléa, procédé emblématique du climato-négationnisme, vise précisément à contester l'influence du changement climatique d'origine anthropique dans la survenue de la catastrophe pourtant attestée par les études d'attribution. Aucune remise en question non plus du côté de Donald Trump à la suite des incendies qui ont embrasé une partie de la région de Los Angeles en janvier 2025. Le président des États-Unis ne mentionne à aucun moment un lien avec le dérèglement climatique et campe sur les positions climato-négationnistes déjà exprimées à l'occasion des incendies qui ont ravagé l'État de Californie en 2020. Exhorté par les autorités de l'État à prendre en compte les savoirs scientifiques sur le changement climatique, il répondait alors « ça va commencer à se rafraîchir, attendez juste de voir ». Si la reconnaissance du rôle du règlement climatique dans la survenue des aléas varie selon les cas, les partis d'extrême droite mobilisent un même ressort discursif pour désigner, donc de discours, hein, pour désigner les responsables supposés de l'inadaptation des sociétés à ces épisodes. Par un mécanisme d'inversion du blâme, les politiques environnementales et les écologistes sont ainsi accusés d'entraver la prévention des risques et d'accroître la vulnérabilité des populations. En Espagne, Vox a relayé les contre-vérités qui accusent les acteurs écologistes d'avoir provoqué les inondations en encourageant la destruction supposée de barrages et l'interdiction de nettoyer les cours d'eau. Bien que largement démentie, cette assertion s'accompagne d'un travail de disqualification idéologique et morale des écologistes, repeint en éco-criminel et en apôtre d'une religion climatique. À l'expression employée par le président socialiste, le changement climatique tue, l'extrême droite espagnole oppose le slogan « Le fanatisme climatique tue ». Le même procédé est à l'œuvre dans le discours de Donald Trump face aux incendies à Los Angeles pour le président des États-Unis. L'acharnement des écolos à vouloir protéger l'éperlan du Delta, une espèce de poisson menacé de disparition, aurait empêché d'acheminer la ressource en eau vers le sud de la Californie et par conséquent privé les secours des moyens nécessaires pour lutter contre la propagation des incendies. Là encore, l'explication ne résiste pas à l'épreuve des faits. En France, le RN n'est pas en reste. Ces dernières semaines, Marine Le Pen comme Jordan Bardella n'ont pas manqué l'occasion de faire porter la responsabilité de l'impréparation du pays sur une écologie de la décroissance réfractaire à la climatisation. La même stratégie est mobilisée face aux incendies qui sévissent actuellement en Gironde. Le porte-parole du RN, Julien Odoul, a accusé, citation, « les Verts de refuser les débroussaillages ». En 2022, déjà lors des précédents feux dans le département, Laure Lavalette accusait les écolos un peu dingos d'avoir empêché la réalisation de pare-feux au nom d'une conception de la forêt sanctuarisée laissée sous cloche et soustraite à toute intervention humaine. S'ils blâment les mesures environnementales et les écolos, les partis d'extrême droite s'accordent sur des réponses d'adaptation technosolutionnistes. Donc ça veut dire bien la seule solution à nos problèmes, c'est la technique et rien que la technique. Et profitent des événements climatiques extrêmes pour promouvoir leur agenda de dérégulation environnementale. Le grand plan d'équipement en climatisation proposé par le RN face aux vagues de chaleur en est une illustration. Balayant les conséquences écologiques qu'impliquerait la mise en œuvre d'une telle mesure, avec notamment une surconsommation d'énergie, un réchauffement général, etc., ce cadrage permet au parti de réaffirmer son soutien à la filière nucléaire, de ne pas remettre en cause sa défense des énergies fossiles, tout en continuant à s'opposer par ailleurs au déploiement des énergies renouvelables. Du côté de l'extrême droite espagnole, les inondations de Valence sont l'occasion d'insister sur l'inaction générale à laquelle confinerait l'écologie politique, guidée par la théorie selon laquelle les fleuves doivent couler de leur source jusqu'à la mer sans qu'aucun barrage, déversoir ou autre, ne vienne entraver le cours naturel des fleuves. C'est dans cette logique que Gilles Lazaro, député de Vox, accompagne en mars 2025 la motion de censure déposée contre le gouvernement d'un grand plan prévoyant la construction de nouveaux réservoirs et barrages. Les incendies de Los Angeles sont quant à eux devenus un prétexte à la relance par Donald Trump d'un ancien projet d'acheminement des eaux du nord de la Californie vers la vallée centrale et le sud de l'État. Initialement défendu en 2020 pour soutenir l'agro-industrie, ces grands travaux avaient été rejetés par le gouvernement démocrate de Californie en raison de ses conséquences néfastes pour la biodiversité et de son caractère infondé scientifiquement. L'instrumentalisation des événements climatiques extrêmes s'inscrit dans une tendance à la promotion de la dérégulation environnementale dans l'Union européenne comme aux États-Unis. L'extrême droite s'impose ainsi comme l'acteur de premier plan d'un grand mouvement de détricotage des avancées écologiques, de la sortie des accords de Paris pendant le premier mandat de Trump, au combat de Vox contre la loi européenne de restauration de la nature, en passant par les propositions du RN de baisser drastiquement les dépenses en faveur de l'environnement. C'est une vigilance évidemment qu'il faut avoir hein, sur toutes ces récupérations, et on pourrait parler concernant le RN aussi et toute la fachosphère, cette focalisation sur les maisons évacuées en raison des incendies et les supposés pillages qui s'y déroulent, ramener aussi les sujets à l'insécurité ou la supposée insécurité. C'est tout le travail idéologique qui est à déconstruire parce que il est malheureusement beaucoup trop présent dans les médias. Autre information issue de reporters, c'est tout à fait récent. Alors ça, c'est plutôt une portée symbolique, mais qui en dit néanmoins assez long aussi. Il s'agit du jour de dépassement des limites planétaires, qui n'est jamais arrivé si tôt puisqu'il a été atteint le 30 juillet selon l'ONG Global Footprint Network, donc celle qui s'occupe de l'empreinte écologique. Cet indicateur marque la date à laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut générer en un an. Ainsi, durant les 5 mois qui restent à l'année 2026, nous vivrons à crédit, utilisant des ressources que la planète n'est plus en mesure de produire. Dit autrement, nous exploitons les ressources naturelles à un rythme 73% plus rapide que la capacité de régénération des écosystèmes, ce qui équivaut à vivre sur 1,73 Terre, indique l'ONG dans un communiqué. En dépit d'ajustements dans le calcul de cette date fatidique, le jour du dépassement n'est jamais tombé aussi tôt. Certains experts pointent cependant quelques limites dans le choix de cet indice. L'indicateur diffère selon les pays en fonction de leur prédation sur les ressources naturelles. Ainsi, si toute l'humanité vivait comme les Français, nous aurions consommé dès le 24 avril l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an. Bien que les éco-gestes aient une portée limitée, il est possible à notre échelle de réduire notre empreinte écologique et ainsi d'alléger la pression que nous exerçons sur la biosphère, conclut l'article. Ce qu'on peut dire par rapport à cette conclusion, c'est qu'il faut évidemment pas focaliser sur les gestes individuels qui sont nécessaires mais pas suffisants, mais poser les questions structurelles, organisationnelles bien sûr, de la société et comment elle fonctionne, comment la production est organisée. Voilà, et juste par rapport à cette aussi information au-dessus, quand on nous explique les formidables efforts que fait la France pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, vive le nucléaire, etc., on voit que du point de vue de l'empreinte écologique, on voit que on est bien sûr en sur-régime et que étendre le niveau de vie français à l'ensemble de la planète ne suffirait pas, évidemment, à épuiserait encore beaucoup plus rapidement les ressources, puisque finalement on consomme trois fois plus que ce qu'il faudrait par rapport à un rythme soutenable pour l'environnement. Voilà. Allez, on s'accorde une pause musicale et on revient juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle personne n'est autonome, car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas, car les victimes sont les fautives cette fois. Comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit? Comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise, et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la
prochaines générations. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Elles vont en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la Terre, sauvons la Terre. Je crois en l'homme et l'homme comprend sa planète. Yeah. La nature c'est la vie, la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chocs sur la planète, sur la planète, sur la planète. Comment pouvez-vous encore raser des forêts entières en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre? Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiquement au plus bas? Pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Plus on le sait, toute vie dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus non-respect de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays, la disparition d'espèces animales et le fruit de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Elles vont en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la Terre, sauvons la Terre. Je crois en l'homme et l'homme doit croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chèques sur la planète, sur la planète, sur la planète.
Voilà, c'était le groupe Assassin, Écologie, Sauvons la Planète, sur Radio Libertaire 89,4 MHz, dans l'émission Les Mangeux de Terre, en direct, qui reprend son cours avec une page sur l'eau. Alors évidemment, lu sous le prisme de la loi d'urgence, de la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole, bien sûr, qui a été adopté malheureusement par l'Assemblée nationale le 20 juillet avec 296 voix pour, 224 contre, puis par le Sénat le 21 juillet, 214 voix pour, 111 contre. Avec donc Eau et Rivières de Bretagne, l'association qui nous revient dans un communiqué du 24 juillet sur ces questions, donc, qui nous dit que sur les 41 parlementaires bretons, 21 ont voté contre, ce qui m'amène à dire que il y a un certain nombre d'initiatives d'ailleurs individuelles, citoyennes, de demander des comptes aux députés sur leur vote par rapport à cette loi et le faire par écrit, ça me semble, avec toutes les réserves qu'on a sur cette antenne, sur évidemment le système électoral. Néanmoins, ça me semble une bonne initiative afin de mettre la pression et aussi de faire mesurer le poids de la décision qui est prise, évidemment pour faire plaisir au lobby, mais scandaleuse du point de vue de l'environnement et de la santé, bien sûr, aussi, surtout. Et donc, Eau et Rivières de Bretagne nous dit que si certaines dispositions très polémiques sur l'eau ont été retirées, le texte constitue toujours un recul pour l'environnement et les humains qui y évoluent. et qu'un recours devant le Conseil constitutionnel va être déposé. Parmi les mesures polémiques proposées par les parlementaires, donc celles qui ont été heureusement retirées du texte final par la commission mixte paritaire du 16 juillet, il y avait donc le principe de non-régression agricole laissant le champ libre à toute régression au nom de la souveraineté alimentaire, la définition au rabais des zones humides qui excluait les zones humides cultivées, l'augmentation de la représentation des agriculteurs dans les commissions locales de l'eau chargées de la gestion de l'eau qui s'est un peu réduite, la présidence des comités de bassin confiée au préfet coordinateur de bassin, la mise sous tutelle des agences de l'eau élargie au ministère de l'Agriculture et de l'Économie. Néanmoins, d'autres mesures ont été maintenues tout aussi néfastes pour l'environnement, notre alimentation, notre santé, et ne répondant toujours pas au plan social en cours depuis des années dans le monde agricole. Le texte supprime notamment toute priorisation pour la gestion équilibrée de l'eau, la vie biologique du milieu récepteur, la conservation et le libre écoulement des eaux, la protection contre les inondations sont au même niveau que les des activités agricoles, de pêche, industrielles, de production d'énergie ou encore les transports, le tourisme, la protection des sites, des loisirs ou les sports nautiques. Les volumes de stockage d'eau dédiés aux usages agricoles devraient être doublés d'ici 2035, y compris par remobilisation des plans d'eau existants, et la réalisation d'ouvrages et de stockages multi-usages. Donc voilà ce qu'il y a dans la loi. Pour ce qui est de la concertation publique autour des projets de stockage ou de prélèvement d'eau soumis à la procédure d'autorisation, la réunion publique de clôture est remplacée par une simple permanence organisée par le commissaire enquêteur. Autre point, le SAGE, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, document de planification élaboré par les commissions locales de l'eau réunissant tous les acteurs d'un territoire, ne pourra plus interdire, restreindre ou soumettre de prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi pour les projets d'ouvrage ou de stockage d'eau soumis à la procédure de déclaration. Et il devra être révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par le préfet et des projets de stockage définis dans un projet de territoire de gestion de l'eau, PTGE. Le préfet pourra aussi déroger aux règles du SAGE, donc de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, pour permettre la réalisation du projet de stockage. Dans le même temps, PGTE, donc c'est ce nouveau sigle qui désigne le projet de territoire de gestion de l'eau, PTGE, démarche concertée visant un équilibre entre besoins et ressources d'un territoire dont le caractère facultatif est rappelé, devront prendre en compte l'objectif de protection et de développement de l'agriculture. Enfin, globalement, je me permets un commentaire, c'est que bien toujours dans cette lutte et cet arbitrage entre l'environnement et l'économie, on consiste à dire que on peut sacrifier l'environnement parce que l'économie doit fonctionner. Or là, on le voit, on peut aussi, en tout cas dans ces situations critiques, réduire l'intensité de notre mode de vie. En revanche, on ne peut pas réparer, bien sûr, du point de vue de la biodiversité, des disparitions d'espèces qui augmentent de manière exponentielle. Je reprends la lecture du texte. Le texte modifie les représentations dans les commissions locales de l'eau, 50% du nombre de sièges total pour les collectivités, comme avant le projet de loi, 35% pour les usagers contre 25% initialement, et 15% pour l'État contre 25%. Parmi les usagers, un tiers des sièges est attribué à chacune des catégories suivantes. Organisation professionnelle agricole, donc qui voit leur poids quasiment triplé, usagers économiques hors agriculture et usagers non économiques, associations principalement. Au sein des agences de l'eau, les ministères de la Santé, de l'Aménagement du Territoire, de l'Économie, de l'Agriculture seront associés aux sujets qui les concernent. Le rééquilibrage de la charge financière entre les usagers de l'eau finançant seul le fonctionnement et portant près de la moitié du coût des actions agricoles reste un vœu pieux que le texte enterre un peu plus. Ajoutons la possibilité pour les exploitations agricoles de suspendre pour une durée d'1 an maximum le versement de la redevance pour pollution diffuse. Pour les élevages, le texte autorise l'État à prendre par simple ordonnance toute mesure susceptible de simplifier leur mise en service, y compris des mesures réservant la participation du public aux personnes justifiant d'un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain. Il s'agit là d'une tentative d'intimidation des voisins et d'exclusion des associations environnementales. Beau sujet pour le Conseil constitutionnel, le texte empêchant également toute ambition nationale vis-à-vis de la réglementation autour des élevages d'animaux par rapport au cadre européen. Le texte évoque même la création d'un code du pastoralisme et de l'élevage. Signalons que l'administration reste incapable de connaître les effectifs porcins et volailles des exploitations agricoles comme le réclame régulièrement la Cour des comptes. Pourtant, cette information est accessible dans d'autres pays européens. L'obligation de compensation à la destruction des zones humides est supprimée pour celles qui sont les plus dégradées puisque les mesures sont désormais proportionnées aux fonctionnalités. Et les zones humides créées par réalisation de plans d'eau de stockage pourront constituer une compensation aux atteintes à ces milieux. Ce qui n'a pas de sens, hein, bien sûr. Le texte ajoute une dérogation à la période d'interdiction des travaux sur les haies pour tenir compte des conséquences de circonstances exceptionnelles sur la situation du demandeur. Dans les documents d'urbanisme, toute construction ou tout ouvrage nécessaire à l'exploitation agricole seront considérés comme une surface non artificialisée, réduisant d'autant l'ambition des collectivités de réduire les zones artificialisées et l'atteinte du ZAN, ZAN, zéro artificialisation nette. Mais nous resterons avec nos friches bâtimentaires agricoles souvent amiantées, nous dit Eaux et Rivières de Bretagne. La protection des captages est également en régression. Sur les captages prioritaires les plus dégradés, le préfet devra tenir compte des incidences économiques du programme d'action qu'il établit sur les activités concernées. Comment pourra-t-il encadrer ou interdire certaines pratiques agricoles avec pesticides et intrants sur ces territoires ? Et dans combien d'années si on examine leur efficience en matière de captage prioritaire ? Plus grave encore, le texte prévoit l'exclusion du recensement des captages prioritaires, ceux dont la dégradation est liée à une pollution historique par des molécules désormais interdites au niveau national, alors même que leur situation prouve leur vulnérabilité. Sur les pesticides qui ont été réhabilités, donc les deux néonicotinoïdes rendus célèbres par la loi Duplon de 2025, abrogés par le Conseil constitutionnel, pourront être réautorisés par dérogation de l'ANSES. Mais on peut légitimement s'interroger sur ces possibilités réelles d'opposition. Une servitude d'utilité publique de voisinage agricole est créée, qui interdit sur une bande de 10 mètres de construire ou de déambuler aux propriétaires de parcelles constructives voisines de parcelles agricoles susceptibles d'utiliser des pesticides. Tout en reconnaissant la dangerosité des pesticides, cette mesure inverse la responsabilité en demandant aux pollués de s'adapter. Alors, de nombreuses actions contentieuses sont envisagées. Par rapport à cette loi qui devrait être publiée vers la fin août, après décision du Conseil constitutionnel, notamment action de recours devant le Conseil d'État, de nombreux acteurs de l'eau, mais aussi au niveau européen pour demander à la Commission de réexaminer les autorisations de certains pesticides interdits dans les eaux destinées à la consommation humaine ou se pencher sur le respect de plusieurs directives. Pour Eaux et Rivières de Bretagne, ce texte ne fera qu'aggraver notre vulnérabilité face au changement climatique et renforcer les conflits autour de la gestion de l'eau. Ce texte survient dans un contexte où la disponibilité de l'eau potable risque de créer de graves soucis aux collectivités bretonnes d'ici un mois et où les solutions de maladaptation qui sous-tendent cette loi surabondent et vont accentuer les crises. Un texte à contre-courant, dénué de bon sens, au service d'une économie qui nous mène dans le mur, ne répondant pas aux défis de la rémunération des agriculteurs, mais proposant une course en avant au profit d'un modèle agricole qui stérilise les sols, dégrade les eaux et nos santé et qui condamne l'agriculture familiale dont certains syndicats ne cessent de se prétendre les défenseurs. Voilà, alors peut-être comme l'article était assez complet, je vais passer sur des informations un peu plus rapides. Sur la Cour des comptes, hein, qui toujours avec Eau et Rivières du Bretagne, qui, 5 ans après l'évaluation de la politique publique de lutte contre les marées vertes en Bretagne, la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes de Bretagne publient leur bilan des actions menées, des conclusions particulièrement sévères pour l'État. Donc cette enquête de suivi de l'évaluation de la politique publique de lutte contre les marées vertes en Bretagne a été publiée 5 ans après l'évaluation initiale de 2021, n'est pas une surprise pour l'association Eau et Rivières de Bretagne. Ce rapport rappelle que les algues vertes continuent de proliférer et notamment sur les vasières. Il note que, citation, « malgré la sensibilité de ces zones à risque, aucune stratégie d'ensemble n'a été fixée par l'État ». Page 53 du rapport. De même, les objectifs en matière de changement des pratiques agricoles sont variables selon les territoires et en l'état actuel insuffisants pour atteindre l'objectif de bon état des masses d'eau en 2027 fixé par la directive européenne cadre sur l'eau. Enfin, un meilleur ciblage des contrôles des exploitations agricoles par les services de l'État, l'optimisation des outils de contrôle, l'accès à toutes les bases de données animales et le maintien à minima, voire le renforcement des effectifs dédiés à ces contrôles sur le moyen terme, restent des éléments fondamentaux pour maintenir la crédibilité et l'efficience de l'action de l'État dans la mise en œuvre de ces outils réglementaires. Sur les 11 recommandations qu'avait fait la Cour des comptes en 2021, seules 2 ont été mises en œuvre, 7 partiellement et 2 inappliquées. Aujourd'hui, la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes de Bretagne formulent 4 nouvelles recommandations et en réitèrent 4 autres. Parmi elles, les plus essentielles pour l'association aux rivières de Bretagne sont... premièrement, renforcer les mesures réglementaires dans l'ensemble des secteurs touchés par les algues vertes, plages et vasières, avec un plafonnement total de nitrates épandus sur les terres agricoles, organiques et minérales, renforcer les règles de couverture des sols, de remise en herbe ou des cultures pérennes des zones humides situées dans les secteurs. Deuxièmement, réviser les objectifs des schémas d'aménagement et gestion de l'eau concernés par les algues vertes sur les vasières. Troisièmement, donner l'accès à la base de données d'identification animale porc et volaille, sans laquelle l'État est aveugle sur la réalité des effectifs animaux. Quatrièmement, conditionner les aides aux entreprises des filières agroalimentaires à des engagements sur la prévention des fuites d'azote. Voilà, vous avez noté que le troisième point, ce qui avait été dit un peu plus haut, hein, l'État ne connaît même pas la réalité des effectifs des animaux. Donc on a finalement une opération porte ouverte à l'extension des élevages et bien ses conséquences qui se payent, notamment en matière d'algues vertes. Eh bien, tout cela est quasiment pas gérable, hein, faute de connaître des données aussi essentielles. Si l'État a un peu renforcé son dispositif réglementaire suite à la première évaluation, il a surtout répondu aux injonctions du juge administratif saisi à plusieurs reprises par l'association Eau et Rivières de Bretagne. Ainsi, l'État a été condamné pour insuffisance de sa réglementation en 2022 et 2023, puis pour carence répétée dans un jugement de mars 2025, qualifié d'affaire bretonne par le rapporteur public. Ce dernier jugement enjoignait l'État à se saisir de toutes mesures nécessaires sous 10 mois. Pour Francis Nativel, président d'Eau et Rivières de Bretagne, un an après, ce rapport confirme d'une certaine manière la difficulté pour l'État de s'attaquer aux origines de prolifération des algues vertes. La Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes préconisent d'agir en produisant 8 recommandations, dont 3 nouvelles. Qui donne raison à l'analyse de l'association. La répétition des rapports d'inspection, ceux des cours des comptes, des tribunaux de la République, est révélatrice d'un dysfonctionnement majeur de notre état de droit qui a laissé s'installer au plus haut niveau un système industriel productiviste au détriment du vivant. Voilà la conclusion de cette citation. Et puis, autre et dernière information, toujours avec le travail de Eau et Rivières de Bretagne, l'association, un article du 9 juillet, qui nous indique qu'un collectif de 31 scientifiques spécialistes de la santé, de l'environnement, de la mer et de l'agronomie soutient la demande faite par l'association Eau et Rivières de Bretagne et également France Nature Environnement, qui appelle le gouvernement à réviser le seuil de bon état des eaux, donc le seuil notamment de 50 mg par litre pour les nitrates. Le 22 mai 2026, les associations ont saisi le Conseil d'État afin de modifier le seuil réglementaire retenu pour évaluer le bon état écologique des cours d'eau sur la base du paramètre nitrate. Les associations et scientifiques mettent en avant une incohérence majeure et largement documentée. Ce seuil donc officiel aujourd'hui de 50 mg par litre de nitrate utilisé par la réglementation française est en réalité issu de la réglementation de l'eau potable. Il ne prend pas en compte la réalité des impacts de cette teneur sur les milieux aquatiques et n'empêche pas la dégradation de nos cours d'eau et de nos littoraux. La prolifération des algues vertes en est un signe visible par toutes et tous. Voilà, donc, enfin, commentaire personnel, effectivement, c'est important. On a ce seuil qui a été défini juste par rapport aux critères de potabilité. Mais il n'y a pas qu'un usage humain de l'eau, il y a aussi toutes les conséquences de la circulation de cette eau sur l'environnement. Et ça, c'est pas pris en compte dans la définition du seuil. On peut assez facilement le comprendre. Je reviens sur la conclusion de l'article. Pour réduire très significativement l'ampleur des marées vertes en Bretagne, l'autorité environnementale nous dit qu'il faut atteindre une concentration de nitrate dans les cours d'eau autour de 10 mg par litre. Il existe un seuil réglementaire de 18 mg par litre pour le risque d'eutrophisation. Le seuil de 50 mg par litre pour qualifier le bon état fixé par le droit français apparaît ainsi bien trop élevé. Pour Nicolas Forêt, secrétaire général d'Eau et Rivières de Bretagne, ingénieur agronome et spécialiste de l'eau, cette tribune conforte notre analyse et étaye notre recours devant le Conseil d'État. Donc voilà, eh bien, sur le sujet de l'eau, on a été relativement complet. On va se faire une pause musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. Voilà, c'était le groupe Mugard qui interprétait Ascendu. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Manges de Terre qui poursuit son tour d'horizon de l'actualité avec à l'appui de la Confédération Paysanne sur bien les conséquences de la canicule, puisque la France est de nouveau en quasi-totalité placée en vigilance canicule avec un troisième épisode, donc c'était un communiqué du 10 juillet. Troisième épisode caniculaire depuis mai, des feux violents qui se propagent partout sur le territoire, des cultures végétales souffrent, les prairies ont grillé sans regain possible, les maïs se dessèchent sur pied et ne feront pas de grains, les stocks de fourrage d'hiver sont déjà entamés. Dans les campagnes, le moral est au plus bas. Et la Confédération Paysanne exprime sa profonde solidarité, son soutien aux paysans et paysannes durement touchés. Pour l'élevage, deux sujets nous inquiètent tout particulièrement. L'écarissage, d'une part, et le fourrage, d'autre part. Alors, sur l'écarissage, en plus de subir de fortes températures dégradant les conditions de travail dans le monde agricole, certains ont vu souffrir, mourir leurs animaux et ont aussi dû souvent faire face à un service d'écarissage saturé. En Bretagne, par exemple, où se concentrent près de deux tiers des 9127 tonnes d'animaux morts, volailles et porcs, le constat est accablant quant au manque d'anticipation des services de l'État face à une situation pourtant déjà vécue lors de l'épisode de grippe aviaire. Nous nous interrogeons sur la délégation de mission de service public à une entreprise privée pour qui nos cadavres sont de la matière première nécessaire à leur profit. Sur ce sujet, la déclaration de la ministre Annie Genevard, donc de l'Agriculture, au Sénat, à l'occasion de l'audition de cette semaine des ministres sur la canicule, est particulièrement inconséquente. Alors que certains de nos collègues ont dû, par leurs propres moyens, sortir les cadavres de leurs bâtiments afin de les enterrer, la ministre de l'Agriculture affirme que tout était sous contrôle, qu'il n'y a eu aucune rupture du service d'écarissage. Un scandale, nous dit la Confédération Paysanne. Pour les éleveurs laitiers, sur tout le territoire, c'est la double peine. Coût de production qui explose avec l'achat de fourrage et d'équipements pour soulager les animaux de la chaleur, alors même que les prix du lait restent bas, en moyenne 400 euros pour 1000 litres. 40 centimes le litre, donc les animaux souffrent, les veaux ne sont pas vigoureux, la production laitière a chuté de 10 à 30% dans les fermes. Plutôt que de maintenir à tout prix le cheptel de porc et de volaille, d'augmenter indéfiniment la taille des élevages ou des bâtiments, il faudrait le désintensifier et redéployer les productions animales vers d'autres régions de France. Nous ne voulons plus de territoires spécialisés, nous voulons une souveraineté alimentaire locale et nationale. Sur tous ces sujets, une fois de plus, c'est le déni qui prévaut pour gérer la crise comme pour dresser des bilans. Déni des réalités immédiates, mais aussi des enseignements à en tirer pour engager les orientations nécessaires à moyen et long terme. La Confédération Paysanne demande donc les mesures d'urgence suivantes. Premièrement, la priorisation du fourrage vers les élevages et non pour approvisionner les méthaniseurs. Deuxièmement, des prêts de trésorerie à taux zéro fléchés sur l'achat de fourrage pour soutenir tous les éleveurs et éleveuses. Troisièmement, la reconnaissance de l'ensemble du territoire en catastrophe naturelle. Quatrièmement, le déploiement rapide de l'indemnité de solidarité nationale et la modification des règles pour indemniser correctement l'ensemble des paysans, assurés ou non. Pour mémoire, seuls 18% des fermes sont couvertes par une assurance récolte. Cinquièmement, mener des expertises de terrain pour constater les pertes réelles pour les prairies et abandonner le système Airbus qui ne fonctionne pas bien. Au-delà de ces mesures d'urgence, la Confédération Paysanne insiste sur le besoin de stabilité et de visibilité des prix pour sécuriser les élevages. La fluctuation les fragilise et décourage les installations. L'Europe doit déployer des outils de régulation réactifs avec une révision du seuil d'intervention et non se contenter d'un plan élevage décevant sans aucune déclinaison concrète. Il n'y a pas de fatalisme, mais des choix politiques pour plus de robustesse des filières. Le gouvernement a annoncé donc le 9 juillet un plan d'aide conjoncturelle pour l'achat d'engrais de 145 millions d'euros. Nous exigeons la même volonté politique pour soutenir l'élevage et engager des mesures structurelles. Il y a urgence à agir car l'élevage est en péril. Voilà. Et puis on rejoint la problématique de l'eau avec deux infos tirées de reporters. La première, c'est que le mercredi 8 juillet, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a déclaré l'illégalité de 12 projets de méga-bassines dans le Poitou-Charentes, dont celle de l'Apalu et de l'Homme-Couture, une décision consulté par Mediapart, motivé par la protection de l'outarde canepetière. Donc c'est un oiseau. Aux trois de ces projets de bassine, celles de la Palue sont annulées par les magistrats du fait de leurs conséquences sur une zone de refuge pour ces oiseaux en danger d'extinction en France, menacée par l'agriculture intensive. Pour les neuf autres, de longue couture, la Cour a donné 18 mois aux porteurs des projets pour présenter un dossier régularisé comportant une dérogation espèce protégée. Celui qu'ils avaient présenté n'était pas, aux yeux des magistrats, de nature à empêcher la perte d'habitat et le dérangement de l'outarde canepetière. Ces bassines avaient déjà été retoquées par le tribunal administratif de Poitiers en 2023. À l'époque, les juges avaient estimé que ces réserves n'étaient pas associées à de réelles mesures d'économie d'eau et n'étaient pas adaptées aux effets du changement climatique. Cette fois-ci, les magistrats de la Cour d'appel de Bordeaux ont notamment considéré que le programme de stockage d'eau de la Palue constitue une des solutions permettant un retour au bon état quantitatif des milieux aquatiques, alors qu'il avait été décrit comme surdimensionné par les juges de Poitiers. Voilà, donc à travers les décisions de justice, on voit que il n'y a pas encore de jurisprudence, hein, puisque la décision est en cours d'appel et qu'il faudra passer au moins un cran au-dessus, Conseil d'État. On voit que les arguments se défont. Toujours est-il que, toujours avec Reporter, c'est une première information du 24 juillet. Le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le 23 juillet la destruction totale de 4 mégabassines situées en Charente-Maritime et la remise en état des terrains dans un délai de 3 ans. Une décision inédite pour une situation inédite. Condamné à l'été 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle à un total de 1,5 million d'euros d'amende et réparation pour avoir utilisé l'eau stockée dans ses ouvrages sans autorisation et dégrader les milieux naturels, les irrigants réunis au sein de l'association syndicale autorisée d'irrigation des roches, ASAI des roches, n'avaient pas donné suite aux demandes de la préfecture qui les pressait de régulariser leur situation. Si ce sont bien ces agriculteurs qui auront à charge la déconstruction, le jugement ne pointe pas leur responsabilité, mais celle de l'État qui aurait dû les obliger à le faire il y a bien longtemps. Les bassines dont la justice demande la destruction sont situées sur les communes de Cramp-Chaban, La Grève sur le Mignon et La Laigne. Elles avaient été construites en 2010 avec l'aide financière de l'État pour plus de 60% de leur coût estimé à 5,6 millions d'euros, puis s'étaient vues retirer leur autorisation environnementale par une décision du même tribunal administratif de Poitiers le 7 juin 2018 à la suite d'une requête de France de Nature Environnement 17. Théoriquement interdit, le remplissage de ces bassines et l'usage de leur eau pour irrigation des champs des associés avaient continué. Une cinquième bassine échappe à la destruction car elle est connectée à un seul irrigant qui n'a accès qu'à cette réserve. Il est concerné par un autre arrêté de mise en demeure. Au total, les cinq retenues visées ont une capacité de 1,4 million de mètres cubes. Constatant l'utilisation des bassines malgré trois arrêtés demandant la régularisation de la situation en 2018, 2019 et 2023, et ce même sous un régime de restriction sur l'usage de l'eau lié à la sécheresse, la préfecture de Charente-Maritime avait continué d'attendre. L'instance a accordé des délais pour transmettre une demande d'autorisation qui n'est jamais arrivée. Citation, nous sommes devant une défaillance caractérisée de l'État dans la gestion de l'eau, comme pour les autorisations de prélèvement d'eau, tranche sévèrement Marie Baumard, qui est juriste pour Nature Environnement 17, qui a porté les recours contre les méga-bassines de l'association ASAI des Roches. À l'origine de la procédure, elle a invoqué un article du Code de l'environnement qui prévoit que, passé les délais de régularisation, un ouvrage ne disposant plus des autorisations suffisantes doit être détruit. C'est cet argument qu'a retenu le tribunal administratif dans son jugement. Constatant le refus de se mettre en conformité avec la loi, la préfecture aurait dû demander la destruction. Faute d'action en ce sens, le juge s'est substitué à elle. C'est un signal fort qui rappelle que la loi doit être respectée, se félicite Marie Baumard. Contactés par Reporter, les services de la préfecture de Charente-Maritime ont indiqué ne pas avoir vocation à commenter les décisions rendues par le tribunal administratif. Il sera naturellement fait appel de cette décision, annonce sans détour Laurent Verdier, qui est avocat des irrigants, dans un communiqué de presse. Continuant de défendre les réserves comme des outils de, citation, gestion partagée et durable de la ressource en eau, il souligne une contradiction avec le vote de la loi d'urgence agricole qui fixe un objectif de doublement des volumes d'eau stockés. La décision est en décalage avec les priorités que la nation vient de se fixer en matière de sécurité de l'approvisionnement en eau et de souveraineté alimentaire, insiste-t-il. Si la décision était confirmée en appel, le chantier de remise en état représenterait, d'après les estimations des irrigants, un coût de 10 à 15 millions d'euros. Qui pourrait financer ça? Interrogeait Francis Pinault, membre de l'ASAI des Roches, à l'audience. Pragmatique, le juge a rappelé dans sa décision que la loi autorisait l'association à lever des redevances spéciales auprès de leurs adhérents pour couvrir les dépenses exceptionnelles. C'est atterrant hein, de voir l'État complice finalement que les associations arrivent à faire casser des décisions qui ne sont pas appliquées. Voilà, et puis on peut dire sur le sujet des méga-bassines aussi faire écho rapidement avec la Confédération Paysanne sur la Défenseur des Droits qui a rendu public ce mercredi son rapport sur les conditions d'exercice du maintien de l'ordre et de ses conséquences lors de la manifestation de Sainte-Soline contre les méga-bassines. Donc le rapport de la Défenseur des Droits dénonce l'usage de la force disproportionnée entraînant un risque mortel pour les manifestants ainsi que les attitudes et propos des gendarmes hors de toute règle déontologique. Il épingle très fortement l'ensemble de la chaîne hiérarchique du commandement, pointe aussi le grave manquement aux obligations d'enquête de l'IGGN, l'organisme chargé d'inspection au niveau de la gendarmerie nationale, avec un rapport jugé rapide et bâclé. Enfin, il souligne l'absence de transmission aux enquêteurs de l'IGGN de certains enregistrements. La Confédération Paysanne salue la qualité du rapport, la précision, le soin avec lequel chaque situation a été examinée, dont en particulier le tir depuis le lanceur Cougar, le tir de grenade lacrymogène, l'usage de LBD sur des quads en action, même si la Confédération Paysanne ne partage pas l'avis sur l'absence d'entrave au secours. La Confédération Paysanne se félicite que la défenseur saisisse le ministre de l'Intérieur afin qu'il engage une procédure disciplinaire à l'encontre de plus de 30 militaires, dont des commandants et chefs de peloton, sur l'encadrement de l'emploi de la force et contre les autorités constituant la chaîne de commandement pour non-respect des obligations de veiller à l'intégrité physique et à la santé mentale de leurs subordonnés et de discernement, et en n'ayant pas assuré un maintien et rétablissement de l'ordre respectueux de la sécurité de l'ensemble des protagonistes, en privilégiant l'objectif de défense, de la défense ferme de la bassine. 3 ans après la violente répression qui s'est abattue à Sainte-Soline, ce rapport rendu possible par l'autosaisine de la défenseur et par la détermination des victimes et des parties prenantes oblige l'actuel ministre de l'Intérieur à une réaction immédiate. Nous espérons que ce rapport apportera aussi une pierre aux combats judiciaires qui sont encore en cours. Il a fallu 3 ans et la ténacité des victimes pour qu'une information judiciaire soit enfin ouverte. Le parquet, placé sous l'autorité du garde des Sceaux, a jusque-là fait preuve d'un manque de célérité inouï en comparaison avec la répression judiciaire que la Confédération Paysanne et les autres syndicats et organisations engagées dans cette lutte ont déjà subi. Au vu des conclusions de ce rapport accablant pour l'intégralité de la chaîne de commandement, la Confédération Paysanne s'interroge sur d'éventuelles procédures judiciaires qui pourraient être engagées contre le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin. Voilà, et puis on n'a pas malheureusement le temps de l'évoquer, mais il y a Génération Future, je vous invite à aller voir sur leur site, qui nous fait part d'une bonne nouvelle sur les chartes d'usage des pesticides, puisque le Conseil d'État a rejeté le pourvoi du ministère de l'Agriculture et confirme l'illégalité de 5 chartes dites de bon voisinage sur notamment les distances d'épandage des pesticides. Mais je vous laisse peut-être découvrir cette information sur le site de l'association Génération Future. Voilà, est-ce qu'on a le temps d'évoquer un autre sujet? Non, on va se faire une dernière pause musicale et on terminera par quelques sujets sur l'effet de serre, l'énergie. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
violents, les violeurs, les méchants, les malheurs, les rentrants, les remparts, les bilans, les faire-part, les canons, les non-noms, les sanctions, les sermons, les espions et les pions. Les tyrans, les tireurs, les démons, les menteurs, les branlants, les branleurs, les bons dieux, les banlieues, les affreux, les odieux, les enjeux, les enjoues, les envieux, les jaloux. Face à la merde, tout doit disparaître. Face à la merde, on va refaire le monde. Face à la merde, il y en aura pour tout le monde. Face à la merde, tout doit disparaître. Face à la merde, on liquide la planète. La bombe chez les lâches, la famine et les mines, les cravaches et les vaches, le chômage, les otages, les déprimes et les primes, les péages, les sondages, les massacres et les sacres, les envieux, les jaloux, les enjeux, les enjoues, les affreux, les odieux, les banlieues, les bons dieux, les branlants, les branleurs, les démons, les menteurs, les tyrans, les tireurs. Face à la merde, tout doit disparaître. Face à la merde, on liquide la planète. Face à la merde, on va refaire le monde. Face à la merde, il y en aura pour tout le monde. Tout doit disparaître. Les envieux, les jaloux, les enjeux, les enjoues, les affreux, les odieux, les banlieues, les bons dieux, les branlants, les branleurs, les démons, les menteurs, les tyrans, les tireurs. Face à la merde, il y en aura pour tout le monde. C'est la merde, on tout doit disparaître. Face à la merde, on liquide la planète. Face à la merde, tout doit disparaître.
Voilà, Jacques Dutronc, face à la merde, tout doit disparaître et tout ne disparaîtra pas. Eh bien, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. Dernière partie de l'émission avec quelques sujets dont on aurait pu se douter hein, sur la page effet de serre énergie. Avec officiellement le mois de juin 2026 qui a été bien décrit comme le plus chaud jamais enregistré en Europe occidentale et le deuxième plus chaud au niveau mondial, c'est une annonce de l'Observatoire climatique de l'Union européenne Copernicus du 9 juillet. La température moyenne a atteint 20,74 degrés en juin, soit plus de 3 degrés au-dessus de la norme de la période 1991-2020. Voilà, ces derniers jours, plusieurs pays avaient annoncé leurs records respectifs. La France a eu le mois de juin le plus chaud, l'Espagne, le premier semestre le plus chaud de son histoire. Des records qui ont provoqué des décès, on y reviendra plus loin. 8973 enregistrés pendant le pic de la canicule du 22 au 28 juin selon les données provisoires publié par Santé publique France, soit une hausse de 30%. Alors, 8973, ce n'est pas le total, hein, c'est le nombre de décès. Mais le fait qu'il y ait une hausse de 30%, on y reviendra juste après. Le changement climatique est en train de passer du statut de problème futur abstrait et statistique à celui d'une réalité concrète et perturbatrice de la vie quotidienne, a analysé auprès de l'AFP, l'agence AFP, Samantha Burgess, qui est responsable stratégique des questions climatiques au Centre européen pour les prévisions météo à moyen terme, le CEPMMT, une organisation intergouvernementale qui gère Copernicus, en charge donc de cet observatoire du climat. Selon elle, l'Europe se réchauffe bien plus vite que la moyenne mondiale. Et puis, alors justement, sur un bilan, donc le site en ligne Reporter, dans un article du 22 juillet, nous rappelle que l'épisode de chaleur extrême qui a touché la France du 17 juin au 2 juillet a provoqué au moins donc 5764 décès excédentaires selon des données provisoires publiées le 22 juillet par Santé publique France. Il s'agit de la surmortalité la plus élevée enregistrée depuis la canicule historique d'août 2003 qui avait causé 15 000 morts. La moitié de ces décès s'est concentrée sur 3 jours seulement, les 25, 26 et 27 juin. L'Île-de-France a été la région la plus touchée avec 1999 morts en excès, soit une mortalité doublée par rapport à la normale. Ce que l'agence sanitaire juge inédit, c'est que la surmortalité a concerné toutes les classes d'âge à partir de 15 ans, avec une augmentation marquée dès 45 ans. Si les plus de 75 ans restent les plus vulnérables et représentent les 2/3 des décès, la tranche des 45-64 a également été très durement touchée avec un bond de 55% par rapport à la mortalité attendue. Ces chiffres ne peuvent toutefois pas encore être imputés avec certitude à la chaleur, précise Santé publique France qui publiera un bilan définitif à l'automne. À ces 5764 morts excédentaires par rapport aux moyennes, s'ajoutent les quelques 300 décès excédentaires de la première canicule de l'année, fin mai. La France a depuis enchaîné un troisième épisode de forte chaleur à la mi-juillet, dont on n'a pas encore le bilan. Et puis alors, ce qui n'est pas réjouissant, c'est aussi, bien toujours sur Reporter du 27 juillet, un article qui nous parle des 12 jours de tempête continue au Chili, qui sont les premiers signes d'un super Niño dévastateur. Et avec le témoignage donc d'une habitante d'un secteur rural d'El Trapiché sur la commune d'Oval, qui a été évacuée donc le 17 juillet par hélicoptère avec son fils, son frère et ses parents. Notre terrain se situe entre un estuaire et un fleuve qui ont débordé et tout inondé, raconte-t-elle. Nous avons reçu l'alerte sur nos téléphones, mais nous n'avons pas eu le temps de partir. Détaille la femme de 32 ans. Les torrents d'eau ont envahi notre maison en 15 minutes. Les animaux que les voisins avaient dû laisser en fuyant la tempête se sont noyés. Nous n'avons rien pu faire. Les vallées semi-désertiques du nord du Chili, la région de Coquimbo où vit Anita et la province de Huasco sont les plus affectées. Mais les tempêtes touchent 10 des 16 régions du pays, un phénomène inédit selon le président d'ultra-droite José Antonio Kast, qui a décrété l'état de catastrophe pour les territoires les plus sinistrés le 20 juillet. Trop tard, s'agace le maire de la ville de Coquimbo, Ali Manoucheri. La gestion de la crise par le gouvernement est un échec total, dit-il. L'état de catastrophe est décrété quand nous sommes déjà en train de compter les morts. Selon le dernier bilan provisoire communiqué le 25 juillet par le Service national de prévention et d'intervention en cas de catastrophe, 13 personnes sont décédées, 15 portées disparues et environ 43 000 isolées. Plus de 16 000 habitants sont privés d'électricité et plus de 120 000 privés d'eau potable. Les autorités estiment pour l'instant que 1600 logements ont été détruits, 5800 ont subi des dégâts importants et environ 27 000 souffrent de dégradations mineures. Avec l'appui de l'armée, 190 tonnes de produits de première nécessité ont été acheminées vers la région sinistrée et le ministère de la Santé a déclaré une alerte sanitaire afin d'accélérer l'affectation des ressources nécessaires pour éviter l'apparition de maladies liées à la crise. Alejandro Cortés, un paysan de 62 ans qui vit depuis sa naissance dans la vallée de l'Imari, se souvient que la dernière tempête de cette ampleur remonte à 97, l'année d'un phénomène Niño intense. Phénomène climatique naturel qui s'étale sur 9 à 12 mois, El Niño se caractérise par un réchauffement inhabituel à la surface de l'océan Pacifique tropical qui perturbe les conditions météo à l'échelle mondiale. Les tempêtes de ces derniers jours au Chili sont sans aucun doute liées au Niño, affirme Roberto Rondanelli, qui est directeur du Centre de recherche sur le climat et la résilience. C'est un événement extraordinaire de forte intensité, qualifié en langage courant de Super Niño. Les trois Super Niño enregistrés depuis le début des relevés modernes au milieu du XXe siècle ont eu lieu en 82, 83, 97, 98 et 2015-2016. La question à laquelle nous pourrons répondre dans les prochains mois est si nous vivons le Niño le plus intense jamais enregistré, ajoute Roberto Rondanelli, également maître de conférence au département de géophysique de l'Université du Chili qui étudie le phénomène depuis les années 80. Il y a toujours des incertitudes, mais ça pourrait être le cas, confie-t-il, car cet intense Niño avance plus vite que d'autres vécus jusqu'à présent et il faut très probablement s'attendre à des tempêtes en août, septembre ou octobre. Il faut préciser à la suite de cet article que c'est un phénomène qui tend à augmenter le réchauffement global. Donc, il y a de quoi être inquiet pour l'année prochaine aussi, de ce point de vue. Et puis, je voulais aussi ne pas passer sous silence, toujours avec Reporter, dans un écho du 27 juillet de ce phénomène vraiment particulier qui n'avait jamais été vu en France, puisque l'incendie en Gironde est d'une telle intensité, atteint une telle intensité qu'il a généré un pyrocumulonimbus, une sorte d'orage de feu qui génère son propre vent et dont la charge électrique peut produire des éclairs. C'est une des raisons pour lesquelles ce feu est si violent, imprévisible et difficile à maîtriser. Lundi 27 juillet, en à peine 5 jours, il avait déjà ravagé plus de 42 000 hectares, blessé 80 pompiers, endommagé plus de 240 maisons et forcé à la fuite plus de 200 000 personnes. Les pyrocumulonimbus se forment lors de feux particulièrement intenses. Ça avait notamment été le cas lors du feu destructeur de McKinney en Californie en 2022 ou lors des feux de brousse de 2020 en Australie qui avaient ravagé plus de 8 millions d'hectares. Les feux de cette ampleur dégagent d'importantes quantités d'énergie et de chaleur qui forment des panaches dans le ciel. Lorsqu'ils atteignent une altitude suffisante, l'air contenu dans ces panaches se refroidit et se condense pour former un nuage, le pyrocumulus. Si l'atmosphère est suffisamment instable et humide, il peut muter en pyrocumulonimbus, nuage qualifié par la NASA de dragon cracheur de feu. Les vents générés par les pyrocumulonimbus peuvent accélérer la propagation des flammes, tandis que les éclairs qu'ils produisent peuvent déclencher de nouveaux départs de feu. Ce phénomène est extrêmement rare en France. Son apparition est, semble-t-il, récente. Avant la Gironde, il n'avait été observé que lors du feu de Fontainebleau en Seine-et-Marne en juillet, de Ribaut en Aude, dans l'Aude en 2025 ou encore de Générac dans le Gard en 2019. Selon Jean-Baptiste Philippi, chercheur du CNRS et expert du phénomène, cité par le journal Le Monde. Voilà, donc je corrige en direct. C'est pas la première fois qu'on observe ce phénomène, mais en tout cas sur l'ampleur de ce phénomène, où on arrive finalement à avoir une forme de nuage provoqué par l'incendie qui booste la capacité de nuisance du feu. On voit qu'on entre vraiment dans des temps qui sont inconnus hein, par rapport à l'intensité des phénomènes. Alors on a aussi, Reporter nous le rappelle encore une fois, le quotidien en ligne de l'écologie du 31 juillet nous rappelle donc une étude du réseau scientifique World Weather Attribution qui confirme le fait que le changement climatique facilite et favorise les feux de forêt sur la base d'analyses qui montrent que les vagues de chaleur et sécheresse qui touchent actuellement l'Europe ont été alimentées par le changement climatique, répondant aux offensives anti-sciences et climato-sceptiques. Et puis, je vais peut-être terminer par ce communiqué du réseau Action Climat France, intitulé du 29 juillet, intitulé « Solidarité face aux méga-feux ». qui revient sur la série d'incendies dévastateurs qui touchent la France, conséquence directe de la sécheresse mais aussi de l'inaction politique, est un rappel brutal de l'urgente nécessité de s'adapter et de réduire nos émissions de CO2. Le réseau Action Climat exprime toute sa solidarité avec les victimes des incendies qui ravagent actuellement plusieurs départements français, particulièrement la Gironde, ainsi que son soutien aux pompiers, secouristes, élus locaux et bénévoles qui se battent sans relâche pour protéger les villes, les habitats et les écosystèmes. Des quatre coins de la France remontent des images de solidarité, des citoyens qui protègent des habitations avec ce qu'ils peuvent, des animateurs qui divertissent les enfants dans les foyers d'hébergement des personnes évacuées, des agriculteurs qui soutiennent les pompiers. L'entraide citoyenne vient prendre le relais des pouvoirs publics qui n'ont pas su correctement nous protéger et prévenir ces désastres. Il faut dire que les chiffres sont terrifiants. 13 500 feux ou départs de feux recensés depuis le début de l'été, donc ça c'était au 29 juillet, donc c'est encore augmenté, pour une superficie brûlée de près de 120 000 hectares, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 200 000 personnes évacuées, rien que pour le département de la Gironde. Ces drames ne sont pas une fatalité, ils sont le symptôme d'un changement climatique que nous ne pouvons plus ignorer. Le réchauffement climatique et la sécheresse qui touche la France depuis mai aggravent ces catastrophes. Chaque année, les feux deviennent plus intenses, plus précoces, plus destructeurs. Alors que le pays traverse sa quatrième canicule de l'année, toutes les conditions sont réunies pour renforcer considérablement des risques d'incendie d'ampleur et durable. La situation est critique. Les sols en France sont de plus en plus secs à cause des fortes chaleurs répétées, de l'ensoleillement intense et du manque de précipitations. Ces feux renforcés par le changement du climat menacent les populations, détruisent les écosystèmes irremplaçables, abîment des puits de carbone et hypothèquent la sécurité des Français. La pollution de l'air causée par les fumées des incendies constitue par ailleurs un danger sanitaire immédiat après l'exposition, avec une augmentation des hospitalisations et des symptômes respiratoires. L'ATMO, donc une agence sur l'atmosphère, a ainsi montré que les seuils d'alerte aux particules fines ont été dépassés dans trois départements, Gironde, Landes et Lot et Garonne, et notamment dans la métropole de Bordeaux. En plus de mettre en péril de nombreuses activités économiques, ces incendies sont un rappel brutal des vulnérabilités de nos industries. Dans la région bordelaise, de nombreux sites classés Seveso ont ainsi été directement menacés. Implantation d'Ariane Group, stockage de produits pétroliers et d'engrais, centre du CEA, donc sur l'énergie atomique, sur la dissuasion nucléaire. En cas d'incendie non maîtrisé, ces sites constituent un risque concret et très direct sur les populations locales. Face à cette urgence, le réseau Action Climat tient à rappeler avec force, premièrement, l'obligation de doter les services de lutte contre les incendies des moyens humains et matériels à la hauteur des événements climatiques extrêmes et des conditions de travail améliorées pour leur mission vitale. Deuxièmement, la nécessité de renforcer la prévention et l'anticipation des risques. Troisièmement, l'urgence d'une gestion forestière adaptée au changement climatique. Replanter à l'identique rendrait ces territoires tout aussi vulnérables aux méga-feux. Après l'urgence de combattre ces incendies et de la protection des personnes et des biens, viendra le temps des vraies réponses politiques de moyen et long terme face à des phénomènes climatiques extrêmes qui seront de plus en plus fréquents et intenses. La solidarité que nous voyons s'exprimer partout en France doit s'accompagner d'une prise de conscience collective. Ces incendies sont le résultat de choix politiques, économiques et sociétaux. Il est temps d'agir à la hauteur de l'urgence écologique. Le réseau Action Climat sera à force de proposition avec de nombreux acteurs de la société civile pour éviter une amnésie politique dès la fin de l'été qui pourrait amener à passer à un autre sujet à la rentrée sans avoir apporté de réponse aux canicules. Réponse adéquate aux canicules, incendies et sécheresses inédits de cet été. Et effectivement, comment reparler de croissance, d'objectifs économiques en ignorant tout ce qui nous tombe sur la figure, hein, et certains plus que d'autres bien sûr, sur le plan climatique, considérant que l'incendie est aussi une de ses conséquences. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur, avec regarder avec bienveillance cette absolument nécessaire solidarité. Et une fois que le sujet est passé de mode, revenir sur des campagnes électorales bas de plafond avec des sujets encore une fois pointant des boucs émissaires dans la société, boucs émissaires évidemment en raison de leurs origines notamment bien sûr, ces sujets-là, l'actualité doit nous faire changer aussi, en tout cas d'orientation et de logique, et on espère une prise de conscience de plus en plus massive, et ne pas s'interdire et ne pas arrêter la réflexion là où la plupart des médias nous demandent de l'arrêter, hein, puisqu'il faut bien que l'économie puisse vivre. Eh bien non, l'économie s'insère totalement dans l'environnement, dans le social, et doit répondre et doit respecter justement les conditions de bien-être et de survie de l'environnement, et donc l'économie n'a pas tous les droits. Mais c'est un vaste sujet, on y reviendra assez longuement, notamment à travers les luttes syndicales. Voilà, nous sommes en plein mois d'août, nous sommes accablés par la chaleur. L'émission Les Manges de Terre touche à sa fin. Néanmoins, nous restons vigilants, éveillés et prêts à nous associer à toutes les initiatives qui fleurissent pour résister à l'absurdité de ce monde et cette machine d'économie capitaliste, qui nous broie. Voilà, c'est la fin des Manges de Terre. On vous laisse avec une plage musicale bien méritée. Et pour notre part, nous nous retrouvons le 7 septembre, premier lundi du mois, à 18h. À très bientôt. Bon mois à vous.
Potemkin, Gagarin, Pushkin, nie, nie, tras.
J'ai pris à Maquis son costume, mais sa complainte sans appel, qu'il se la chante à Whitechapel. Je suis allergique à la brume.